Carnet d'IG, cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Saison 1, la mémoire qui déraille. Carnet d'IG, épisode 2. Perte de neurones, neurotransmetteurs, antidépresseurs, la chimie de notre cerveau est une machinerie complexe, fine, qui peut facilement se dérégler, comme du sable dans les rouages. Et les troubles de la mémoire peuvent faire partie de ces rouages qui se coincent. La dépression, c'est une maladie comme les autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous toucher comme ça, du jour au lendemain. Nous l'avons bien remarqué avec la crise sanitaire, surtout avec le confinement où de nombreuses personnes ont été diagnostiquées dépressives ou en épisode dépressif. Mais ce n'est pas la seule maladie qui touche notre cerveau, comme me l'explique Aude Marzeau.
On perd des neurones en permanence, donc ça, c'est pas tant un problème que ça. La perte des connexions synaptiques, le problème, c'est quand c'est pas les bonnes connexions. Il y a certaines maladies qui ont comme premier effet, alors là, je vais partir un tout petit peu du champ de la psychiatrie pour aller sur une autre maladie qui est la maladie d'Alzheimer, où l'une des premières étapes qui correspondent d'ailleurs aux premiers symptômes des patients, c'est la perte des synapses, en particulier au niveau de l'hippocampe et puis des petites régions qui sont vraiment tout proches au niveau du cerveau. Et ça, c'est bien avant que ce qu'on connaît de la description de la pathologie qui est par la suite, quand c'est vraiment bien déclaré avec les plaques bêta-amyloïdes, c'est bien avant que ces plaques n'apparaissent. Mais la pathologie progresse lentement et débute, et c'est là qu'on voit déjà les premiers signes de perte de mémoire, apparaît avec cette disparition de ces synapses qui sont clés dans l'hippocampe.
Encore une histoire de neurones et de synapses, pour expliquer pourquoi notre mémoire est touchée.
Alors pour ce qui est d'Alzheimer, ça part presque dans l'hippocampe, c'est un tout petit peu à côté, et puis effectivement oui, ça envahit finalement tout le cerveau en termes de diminution du nombre de synapses fonctionnel et puis apparition finalement de ces plaques qui est aussi liée avec une mort cellulaire. Mais au tout départ, les cellules sont encore bien là, bien vivantes, mais simplement elles peuvent plus communiquer entre elles et ça suffit pour entraîner ces problèmes de mémoire.
Des neurones qui sont détruits, des synapses qui disparaissent et une mémoire qui s'envole. Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM.
J'en ai beaucoup discuté avec mon meilleur ami, avec mes parents et puis avec ma sœur aussi. Même si je n'avais pas vraiment envie, je me suis décidé à aller voir un médecin. Bon, le diagnostic est sans appel, je suis dépressif. Je m'en doutais un petit peu en fait, mais c'est pas facile à accepter. J'ai l'impression d'être un ovni, de pas être normal. Après, le médecin m'a bien fait comprendre que c'est une maladie comme une autre et que je ne suis pas tout seul. D'ailleurs, il m'a prescrit des antidépresseurs pour que ça aille mieux. Et ça, c'est un peu flippant quand même. De ce que j'ai compris, c'est pour rééquilibrer la chimie de mon cerveau, pour essayer de stabiliser mon humeur ou quelque chose comme ça. D'après lui, ça devrait m'aider à mieux me concentrer, ça devrait limiter mes oublis. Bon, à voir si ça fonctionne.
Des médicaments pour rééquilibrer la chimie du cerveau. On ne nous l'explique pas toujours dans le cabinet du médecin, mais c'est bien ce qui se passe. Alors comment fonctionnent les molécules dans notre cerveau et quels sont leurs rôles ?
Alors ces neurotransmetteurs, ils sont produits au sein des neurones qui ont tout ce qu'il faut, toute la batterie de cuisine qu'il faut pour pouvoir les synthétiser. Chaque neurone va être spécialisé dans la préparation de son neurotransmetteur propre. Donc ça peut être sérotonine, dopamine, noradrénaline. Chacun a sa spécialité. Par contre, les neurones en face, ceux qui ont avec lesquels ils font une synapse, vont pouvoir avoir plusieurs types de récepteurs, ces sortes de petits capteurs qui vont pouvoir reconnaître ces différentes molécules, donc la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline, et pouvoir du coup combiner un peu la réponse à ces différents acteurs.
Ce sont des noms qu'on entend parfois, qu'on lit sur Internet. Des compléments pour booster votre sérotonine. Ou bien faites du sport pour produire plus de dopamine. Il serait bon de savoir, vraiment, comment ils agissent dans notre cerveau.
La dopamine, son rôle, de manière très globale, ça va être un petit peu en termes de motivation, de récompense et aussi de marquer l'absence de récompense. C'est pour ça qu'on reste un peu dans le champ vraiment de la motivation, dans la mesure où c'est un signal qui va arriver à notre cerveau, à différentes zones de notre cerveau, pour dire « Ah, là, il y a quelque chose de chouette qui vient de m'arriver ». Ça peut être de l'ordre vraiment de l'émotion abstraite un peu, ça peut être lié à une sensation agréable de « j'avais froid, tout d'un coup j'ai chaud, j'ai faim, je mange ». Là, il y a une sorte de récompense et c'est lié à la libération de dopamine. Si on a un apprentissage et qu'on sait que si on fait ceci, on aura la récompense, eh bien, au moment où on fait l'action qui va nous permettre d'obtenir la récompense, on commence déjà à fournir de la dopamine. Et plus tellement au moment où la récompense arrive, puisque finalement, on a déjà eu le signal de « il faut le faire ». Là où je disais l'absence de récompense, c'est que ces neurones-là vont aussi être capables, au moment où ils voient que finalement la récompense ne vient pas alors qu'on l'attendait, là, à marquer un stop et dire « ah non, attention, on m'a bluffé ». Donc ils détectent ça aussi.
La dopamine, souvent appelée « molécule du plaisir », est donc le neurotransmetteur du circuit de la récompense. Mais elle est aussi impliquée dans la mémoire, le contrôle moteur, l'attention, le plaisir et la motivation, le sommeil et la cognition. Mais qu'en est-il pour les deux autres neurotransmetteurs ?
Alors, sérotonine et noradrénaline sont très impliquées dans ce qui est phénomène d'éveil et de sommeil, en étant beaucoup plus présents au moment de l'éveil. Et la sérotonine va être plus particulièrement impliquée dans la régulation un peu de l'humeur, de se sentir bien. Et alors ça reste vraiment des grandes généralités, hein, mais ça marche un petit peu comme ça. La noradrénaline va plus être impliquée dans les mécanismes de très grands éveils liés notamment au stress. Donc quand on est dans une situation où il faut être performant, d'ailleurs, on dit facilement, on a une montée d'adrénaline qui est un petit peu le petit frère pour l'ensemble du corps, alors que la noradrénaline va avoir un rôle encore plus spécifique au niveau du cerveau. Mais ça marche main dans la main, c'est les mêmes récepteurs qui répondent d'ailleurs. Et l'idée, ça va être de mettre tout notre corps un peu en émoi pour pouvoir être capable de répondre à une situation stressante parce qu'il faut répondre de manière vive.
Et en cas de stress, on produit du cortisol, non ? Qui reste indispensable à la chimie de notre corps, notamment pour savoir réagir à ce stress.
Le cortisol est produit par des petites glandes qu'on a qui sont situées juste au-dessus des reins, donc c'est des glandes qu'on appelle cortico-surrénales. Et ce cortisol, il a le même rôle un petit peu que ce que je viens de dire pour la noradrénaline, c'est-à-dire qu'il va aider le corps à se mettre dans une bonne disposition pour répondre à ce stress et y faire face. Le problème qui peut intervenir, c'est qu'à trop grande dose, comme un peu tout, il faut qu'il y ait une bonne régulation. S'il y a trop de cortisol, ça peut au final dérégler un petit peu l'ensemble de la machinerie et engendrer des troubles.
Pour soigner cette maladie, il existe de multiples traitements. Et par traitement, on n'entend pas toujours la prise de médicaments. Bien sûr, dans la majorité des cas, les antidépresseurs sont au cœur du traitement. Mais ce n'est pas forcément ce qui détermine la réussite des soins. Cela peut reposer sur beaucoup d'autres éléments. Et d'autres approches peuvent aussi contribuer à la guérison. La mémoire qui déraille. Souvent, quand on est diagnostiqué dépressif par le médecin, sa première intention est de nous prescrire des antidépresseurs, pour nous aider à aller mieux. Mais d'après ce que j'ai compris, ça ne marche pas à tous les coups. Il faut avoir le bon dosage de cortisol, l'hormone du stress, dans le cerveau, sinon ça peut détruire les neurones. Souvenez-vous, le cortisol est normalement régulé avec une boucle de rétroaction qui fonctionne un peu comme un thermostat. On augmente la température si elle est trop faible, on la baisse si elle est trop élevée. Et ce système ne fonctionne plus très bien dans la dépression. Les antidépresseurs vont remettre en route cette régulation des hormones du stress. Mais ces antidépresseurs, connaît-on leurs effets depuis longtemps ? Catherine Belzong m'éclaire à nouveau sur les mécanismes de ces médicaments.
En fait, la première chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un certain nombre de débats dans la littérature scientifique il y a une quinzaine d'années autour de l'effet des antidépresseurs. Qu'est-ce qui a été découvert? Les antidépresseurs, premièrement, ils ne marchent que chez les personnes qui ont une dépression. C'est-à-dire, vous pouvez faire des échelles de dépression. Et ce qui a été montré, c'est que les antidépresseurs, premièrement, ne marchent que, évidemment, quand ils sont administrés de manière chronique, pas quand ils sont administrés de manière aiguë. Et deuxièmement, ils ont une efficacité qui est d'autant plus importante que le patient est plus déprimé. Donc ça veut dire que quand on donne un antidépresseur à une personne qui est que très faiblement déprimée, ça n'aura aucun effet. Donc déjà, ça c'est un premier point à retenir, l'efficacité des antidépresseurs dépend vraiment de la gravité de l'atteinte.
Est-ce que la prise de médicaments en cas de dépression, c'est automatique? Est-ce que ça marche à tous les coups?
Ça ne marche pas chez tout le monde. En fait, quand une personne va voir un médecin pour une plainte de dépression, le médecin va lui prescrire un antidépresseur. Il y en a toute une série d'antidépresseurs différents. Évidemment, ce qui se passe en général, c'est que le premier antidépresseur ne marche que chez une personne sur trois. Donc, une efficacité assez limitée. Alors, évidemment, le patient, si ça ne marche pas, va retourner chez le médecin et le médecin va un peu adapter la dose ou peut-être essayer un autre antidépresseur. Comme ça, il va avancer un petit peu à tâtons. Mais après plusieurs essais, 3-4 essais, il reste encore un tiers des patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Les antidépresseurs ne marchent que dans les cas graves et pas chez tout le monde.
Après mon diagnostic, on avait mis un mot sur ce que j'avais, mais il était temps d'agir, enfin d'essayer d'aller mieux, quoi. On a beaucoup discuté avec mon psychiatre, en essayant de mettre le doigt sur les causes de ma dépression, l'origine du mal-être, pour ensuite me prendre en charge le plus efficacement possible. Il existe différents traitements contre la dépression, mais tout le monde n'y réagit pas de la même manière. C'est assez complexe. Du coup, on a essayé différents types de thérapies, cognitives et comportementales, à la recherche de ce à quoi, moi, j'étais la plus réceptive. Le but, c'était d'atténuer mes symptômes, donc le sentiment de tristesse, la désorganisation, les pertes de mémoire. Quand on a vraiment trouvé ce qui me convenait, petit à petit, j'ai recommencé à faire des choses du quotidien, mais qui ne faisaient plus vraiment partie de mon quotidien. Au fil du temps, j'ai retrouvé une certaine motivation au travail et dans la vie en général. Je n'ai plus de pertes de mémoire, et ça, c'était agréable aussi. En fait, j'ai enfin l'impression que la vie a du sens.
Mais si on n'a pas d'atteinte grave alors, qu'on a juste un vague à l'âme ou une passe difficile, qu'est-ce qu'on peut faire si les antidépresseurs ne fonctionnent pas? Par exemple, l'activité physique, ça permet d'augmenter la neurogénèse, la production de neurones. Et puis cela permet de libérer de la dopamine, le fameux neurotransmetteur du circuit de la récompense. Une autre approche qui marche très bien, ce sont les psychothérapies cognitivo-comportementales. Elles comprennent différentes approches thérapeutiques qui combinent une réflexion sur le pourquoi de ces symptômes, notre comportement, la mise à distance des pensées par des techniques thérapeutiques et un changement de processus mentaux, dit cognitif.
Elles marchent très bien, évidemment, chez des patients qui sont pris en charge par des psychothérapeutes. Mais ce qui a été montré également, c'est que ce qui marche très bien, c'est quand on combine l'antidépresseur et la psychothérapie. C'est-à-dire la combinaison des deux a un effet synergique, c'est-à-dire l'antidépresseur a un certain effet, la psychothérapie a également un effet. Quand on combine les deux, c'est un effet plus important que la simple somme des deux effets.
Il faut plusieurs approches alors? Pas se reposer uniquement sur les médicaments ou une psychothérapie de façon exclusive?
Les antidépresseurs augmentaient le nombre de nouveaux neurones bien au-delà de ce qu'il faudrait. C'est la même chose pour les connexions synaptiques, ils augmentent également beaucoup les nouvelles connexions entre neurones. Mais une fois que ça c'est fait, il faut en fait que le cerveau sélectionne les bonnes connexions. Les psychothérapies, je pense, vont permettre, quand elles sont combinées à des traitements pharmacologiques, de en gros sélectionner les bonnes connexions et d'éliminer celles qui ne sont pas nécessaires ou d'éliminer les nouveaux neurones qui ne sont pas nécessaires. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il est très important de ne pas se contenter de juste une pharmacothérapie.
Et pourtant, on vient de voir que les antidépresseurs, ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que dans le futur, on peut imaginer d'autres pistes de traitement, rechercher d'autres approches?
Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait quand même un tiers des patients qui ne répondaient pas au traitement actuellement. Et puis par ailleurs, une chose que je ne vous ai pas encore dite, c'est que les antidépresseurs ont quand même des effets secondaires évidemment, on est en train de chercher des voies alternatives. Les voies qui ont un petit peu le vent en poupe actuellement, ce sont les approches dites de neurostimulation. Tout à l'heure, je disais que dans la dépression, il y a un dysfonctionnement de certaines régions cérébrales. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est stimuler les régions dysfonctionnelles. Par exemple, c'est un petit peu comme quand vous faites une rééducation, qu'il faut rééduquer un muscle, on le stimule. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire s'il y a une région dont le fonctionnement, par exemple, est diminué, on peut, avec des techniques dites transcrâniennes, c'est-à-dire qui vont évidemment traverser l'os crânien, on peut faire des stimulations électriques de certaines zones cérébrales ou alors on peut faire des stimulations magnétiques de certaines zones cérébrales.
Stimuler le cerveau avec des ondes électriques ou magnétiques ? Mais en quoi ça consiste ?
C'est évidemment fait sous contrôle d'un spécialiste. Il connaît parfaitement l'anatomie du cerveau. Il va mettre, par exemple, une électrode ou bien un dispositif pour appliquer des stimulations magnétiques au-dessus de la zone dysfonctionnelle. Et la thérapie va consister à appliquer de manière répétée des stimulations, c'est-à-dire tous les jours, pendant 5 jours, par exemple, on va stimuler pendant un quart d'heure la zone dysfonctionnelle. Et petit à petit, la zone dysfonctionnelle va se remettre à un fonctionnement plus normal.
Donc l'objectif de ces stimulations, c'est que ces zones soient de nouveau fonctionnelles. Mais quels sont les mécanismes impliqués dans ce processus ? Est-ce encore une histoire de neurones et de synapses ?
Le but, c'est effectivement de remettre en route les zones dysfonctionnelles. Alors, les mécanismes actuellement sont assez mal connus parce que les mécanismes, on les étudie souvent dans un modèle animal, c'est-à-dire on pratique ça chez la souris. Et là, jusqu'à présent, on arrivait assez difficilement à faire des stimulations magnétiques chez la souris. Nous, au laboratoire, nous le pratiquons. Donc maintenant, ça va nous permettre de regarder les effets sur effectivement la neurogenèse, les connexions synaptiques, le fonctionnement des régions dysfonctionnelles.
Combiner de nouvelles et anciennes approches, voire les disciplines, c'est plutôt ça la médecine du futur.
Évidemment, dans le laboratoire aussi, on développe également des approches qui vont consister à combiner la stimulation magnétique avec des psychothérapies, par exemple. Dans notre institut, en fait, nous avons 14 disciplines différentes. Et vous voyez que, par exemple, dans ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, les pharmacothérapies, ça va impliquer des pharmacologues, des chimistes qui vont faire fabriquer les molécules. Les psychothérapies, ça va impliquer des psychologues. Les stimulations, les neurostimulations, ça va impliquer des physiciens. Ça implique aussi des mathématiciens pour faire tous ces calculs. Évidemment, il faut impliquer des psychiatres parce que c'est eux qui vont avoir des hypothèses sur la manière, par exemple, de faire différentes sous-catégories de patients. Donc, effectivement, je pense que si on veut vraiment faire des progrès, il faut arrêter d'avoir ce fonctionnement où chacun est dans son tube sans parler aux voisins. Parce que je pense, moi, que l'avenir de la recherche biomédicale, de manière générale, c'est vraiment dans une approche qui est pas seulement pluridisciplinaire, mais interdisciplinaire. Parce que pluridisciplinaire, ce serait différentes disciplines qui cohabitent. Nous, on essaie vraiment de développer une approche interdisciplinaire où chacun essaie d'avancer avec l'autre.
La dépression, une maladie comme une autre, qui ne serait pas que dans le cerveau ? On le sait, les maladies psychiatriques sont très stigmatisées. Actuellement, quand on parle de dépression, on a l'impression qu'on y est presque pour quelque chose. Que c'est un peu notre faute finalement. Il est par exemple plus aisé de récolter des fonds pour la recherche contre le sida ou le cancer. On récolte moins pour la recherche sur les pathologies psychiatriques. C'est plus facile de parler d'un proche atteint d'un cancer, mais beaucoup moins d'un proche qui est schizophrène ou dépressif. Les progrès de la recherche démontrent pourtant que ces maladies sont biologiques, qu'elles sont finalement semblables aux autres, et que ce n'est pas que dans nos têtes.
Ah oui, bien sûr, on a des neurones ailleurs dans le cerveau. Actuellement, ce qui effectivement se développe, c'est premièrement certains sous-types de dépression. Alors moi, je pense que ce serait certains sous-types pourraient être liés à ce qu'on appelle une neuro-inflammation, c'est-à-dire une inflammation, on va dire, cérébrale, de certaines régions cérébrales, parce qu'il y a dans le cerveau des acteurs moléculaires de l'inflammation. Et on a aussi vu que certaines thérapies qui peuvent entraîner des états inflammatoires, peuvent déclencher des états dépressifs. Donc effectivement, c'est une des pistes qui existe pas seulement dans la dépression, mais également dans dans d'autres pathologies neurologiques ou psychiatriques, c'est-à-dire effectivement dans l'autisme, ça a été évoqué également pour des maladies neurologiques ou des maladies neurodégénératives. Donc ça, c'est effectivement une approche. Il y a aussi d'autres approches qui sont basées sur l'idée qu'il y aurait un dialogue entre le cerveau et puis des éléments plus périphériques, par exemple des travaux sur le microbiote intestinal, hein, qui semble montrer qu'il y aurait chez les dépressifs un dysfonctionnement du microbiote et que si on le corrigeait, on pourrait également corriger certains symptômes de la dépression. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis convaincue qu'il y a différentes sous-formes de dépression. On peut pas, tout le monde n'est pas pareil. Et la symptomatologie, peut-être que chez certains patients, ça s'explique par un problème de microbiote, chez d'autres par de la neuroinflammation et chez d'autres encore par une altération vraiment du fonctionnement de certains systèmes de neurotransmission cérébraux, par exemple.
À chacun sa dépression, à chacun son traitement. Et pour cela, il faut d'abord identifier la cause, facteurs génétiques, environnementaux, sociaux ou encore psychologiques. L'événement déclencheur peut aussi bien être un choc émotionnel qu'une inflammation dans une zone du cerveau après certaines thérapies médicamenteuses. Mais les conséquences semblent être similaires. Cela peut toucher notre mémoire et modifier l'anatomie et la chimie de notre cerveau. De notre cerveau ? Et si je vous disais qu'on en avait deux, des cerveaux ? Le second, à quoi pourrait-il bien servir ? Et où se trouve-t-il ? Se pourrait-il qu'il soit également impliqué dans des maladies mentales, telles que la dépression ? Autant de questions que nous allons continuer de nous poser dans nos carnets d'IG. Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de cet épisode de Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Aude Marzeau et Catherine Belzong pour leur intervention dans cet épisode, une coproduction de l'INSERM et du Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur Spotify et SoundCloud. À bientôt !